RMC, Intégral Sport, spécial Tour de France, Christophe Cessieux.
L'Intégral Sport, ce soir en direct d'Albi, après cette septième étape qui a donc conduit le peloton de Montpellier à Albi. Nous allons revenir évidemment sur les temps forts de cette septième étape et surtout nous intéresser dans quelques minutes à celle de demain. Car cette fois-ci, la montagne est là, les Pyrénées, avec la première grande étape de montagne, à la veille d'une étape de montagne. On attend toujours beaucoup de choses. Faut-il en attendre beaucoup, justement, de cette étape? On en parle dans un instant avec Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Mais avant cela, c'est l'heure du Journal des Sports, deuxième édition. Jean-Louis Tour est avec nous. Jean-Louis, on va partir tout de suite pour Wimbledon parce que là aussi, il se passe beaucoup de choses.
Oui, avec la fin d'un marathon. La première demi-finale s'est achevée tout à l'heure. On l'a suivi sur RMC avec la victoire de Novak Djokovic contre Juan Martín Del Potro. Eric Salio, vous nous avez fait vivre ce match, une sacrée bagarre remportée par le Serbe.
Ah ouais, quel match. 5-7, 4h43. Novak Djokovic qui a vraiment dû bosser très dur pour se hisser en finale parce qu'il a eu deux balles de match dans le tie-break du 4 et Del Potro a vraiment été héroïque. Il a frappé comme un sourd dans la balle. Il a débordé un nombre de fois incalculable le Serbe qui pourtant est le meilleur défenseur du circuit. Donc 7-5, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3. Novak Djokovic qui va disputer dimanche sa 11e finale de Grand Chelem. Il partira à la conquête d'un deuxième titre à Wimbledon. Et évidemment, il va suivre avec beaucoup d'intérêt la deuxième de finale qui va débuter dans maintenant une dizaine de minutes. Les deux joueurs viennent de pénétrer sur le Center Court.
Andy Murray face à Janowicz, le Polonais. On suivra ça évidemment avec vous, Eric Salio, envoyé spécial RMC Sport à Wimbledon. Demain, à la même heure, Marion Bartoli aura peut-être remporté le premier grand chelem de sa carrière. La Française dispute la finale de ce tournoi de Wimbledon. Ce sera face à l'Allemande, Sabine Lisicki. Signe que son exploit pourrait être retentissant. La ministre des Sports, Valérie Fourneyron, devrait se déplacer pour assister à la finale.
C'est une superbe nouvelle pour le sport français, pour le sport féminin, pour Marion Bartoli. Elle a eu cette victoire en 2006 d'Amélie Mauresmo. On espère ce titre du Grand Chelem pour Marion Bartoli. Pour elle, pour la première fois, ça serait superbe. On l'encourage vraiment contre cette Allemande. Il y a presque un symbole aussi, puisque nous fêtons ce week-end les 50 ans de l'amitié franco-allemande. Je vous souhaite pleine réussite.
Valérie Fourneyron avec Vincent Delzesco pour RMC Sport. Évidemment, la finale de Marion Bartoli demain à vivre sur RMC. Le Tour de France et la victoire de Peter Sagan. Le Slovaque a enlevé le sprint à Albi aujourd'hui. Les gros bras de l'exercice comme Cavendish et Greipel étaient lâchés la faute à cette étape de moyenne montagne. La montagne, la vraie, c'est pour demain. Le peloton attaque les Pyrénées, Castres, Axe, trois domaines avec notamment l'ascension du col de Payer classé hors catégorie. Présentation rapide de l'étape avec Stéphane Hulot, le manager de l'équipe Sojasun.
Je pense que demain il y aura deux courses en une. Une course pour l'étape, pour les coureurs qui ont des facultés de grimpeurs et qui se retrouvent un petit peu loin en général. Et puis une seconde qui va être un combat des chefs avec éventuellement aussi le joueur de l'étape. Mais je pense que l'étape par rapport à sa longueur va permettre quand même à une échappée de prendre assez pas mal d'avance. Et donc on va viser en fonction de ça.
Stéphane Hulot qui réagissait tout à l'heure en direct de la ligne d'arrivée avec Pierre-Yves Leroux sur RMC. On reparle du Tour de France juste après ce journal des sports avec cette étape de montagne demain. Toute l'équipe est là autour de Christophe Cessieux jusqu'à 20h avec la Dream Team RMC Sport. En football, Leonardo a retrouvé son panier et son supermarché préféré pour le recrutement. Le directeur sportif du PSG a relancé des pistes en Italie. Il a d'ailleurs vu le président de Naples concernant le cas de l'attaquant uruguayen Edinson Cavani. Selon RMC Sport, les deux parties pourraient rapidement s'entendre. Toute l'actualité du Mercato à retrouver en temps réel sur rmcsport.fr et ce soir à 21h dans l'After avec Florent Gautreau. En Formule 1, la réponse de Sébastien Vettel, l'Allemand, a signé le meilleur chrono de la séance d'essais libres du Grand Prix du Nürburgring. Il devance son compatriote Nico Rosberg, dominateur lui, pendant la première séance d'essais libres, deux séances placées sous l'ombre de la polémique autour des pneus, comme depuis le Grand Prix de Silverstone le week-end dernier. Enfin, en golf, les Français en difficulté à l'Open de golf, plus aucun n'est sous le par, une conséquence de la deuxième journée difficile pour Romain Vatel et Raphaël Jacquelin. Et puis notez que le tenant du titre ne franchira pas le cut. Marcel Slem a lui aussi connu une deuxième journée difficile. 19h12 sur RMC, l'heure de retrouver Christophe Cessieux, direct d'Albi pour l'Intégral Tour.
Exactement Jean-Louis, terme de cette septième étape du Tour de France, dernière étape de plaine, dernière étape de moyenne montagne avant évidemment d'aborder demain la haute, la grande montagne, les Pyrénées qui nous attendent demain avec cette première étape de montagne. C'est vrai que c'est toujours un grand moment. On va en parler dans quelques instants avec toute la Dream Team, Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. En attendant, il y a eu une étape aujourd'hui, une bien belle étape remportée par un bien beau champion qui se nomme Peter Sagan, le porteur du maillot vert, déjà vainqueur de 3 étapes l'an dernier et qui aujourd'hui, eh bien, n'a laissé à personne la possibilité de remporter cette étape. Il a fait rouler son équipe et à l'arrivée, il s'est imposé au sprint. Tout de suite, le replay de cette étape. Les 1000 derniers mètres maintenant pour cette 7e étape. Peter Sagan va-t-il enfin décrocher sa victoire d'étape aujourd'hui, Fred?
Avec les Cannondale, ça y est, qui reprennent la main. Les Cannondale qui ne comptent plus que 2 coureurs, un équipier de Sagan et Sagan lui-même. Mais on coince à l'avant du peloton et John Degenkolb est en train de déborder tout le monde. Le sprinter allemand de l'équipe Argo Shimano a dans sa roue Peter Sagan. Sagan qui débouche à 200 mètres. Sagan sur la droite de la route qui va aller faire parler sa fréquence de pédalage pour remporter sa 4e étape sur le Tour de France. Victoire du Slovaque, maillot vert du Tour de France, Peter Sagan devant un coureur de l'équipe Saxo, a priori Daniele Benatti. John Degenkolb a menacé jusqu'au bout Peter Sagan, mais ce diable de Slovaque a fait, en compagnie de sa formation Cannondale, une course absolument parfaite aujourd'hui. Ça y est, il débloque son compteur. Lui qui avait terminé 3 fois 2e et 1 fois 3e depuis le départ de ce Tour de France vient décrocher un bouquet amplement mérité.
RMC Intégral Tour.
Bouquet amplement mérité, nous disait tout à l'heure Frédéric Adam durant le direct. Et c'est vrai que cette victoire, Sagan et toute la formation Cannondale la doivent qu'à eux-mêmes. Ils ont fait un travail remarquable tout au long de la journée. Travail tactique en éliminant tout d'abord les autres favoris pour le sprint, à savoir Cavendish, Greipel et les autres. Et puis ensuite, en revenant sur les échappés, en préparant de manière spectaculaire le sprint pour Peter Sagan, qui n'a plus eu qu'à aller mettre la balle au fond. Et ça, il sait faire. Ils sont là avec moi, j'ai nommé Cyril Guimard. Bonsoir monsieur le druide.
Bonsoir.
Thierry Bourguignon est également avec nous, comme tous les soirs. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs.
Et Luc Leblanc qui nous rejoint également. Salut Lucho.
Salut.
Alors messieurs, Peter Sagan, je voudrais d'abord avoir votre avis. Est-ce que vous avez été impressionné par son travail et surtout par celui de son équipe aujourd'hui? Thierry, on va commencer par toi.
Impressionné par l'équipe surtout, puisque jusqu'à présent je disais que il n'était pas épaulé avec une équipe un peu tendre à mon goût pour lui emmener les sprints. Là ils ont joué tactique, ils ont fait sauter tous les sprinteurs qui pouvaient le battre pratiquement, et puis ils ont joué très fort puisqu'ils ont fait 140 km de poursuite.
Évidemment c'est un très beau travail,
c'était vraiment une chasse patate entre l'arrière et l'avant. Et puis l'arrière a déposé les armes, arrive à un moment et est arrivé à pratiquement un quart d'heure.
Ouais, c'est vrai que ça a été une redoutable tactique qui n'a pas déplu du tout à l'ancien directeur sportif qui est Cyril Guimard. C'est vrai que là c'est magnifique de voir un travail comme ça réalisé. J'imagine que le matin, avant le départ de l'étape au briefing, on essaye d'établir ce genre de plan. Mais là, pour que ça marche aussi bien, il faut avoir du talent, mais aussi un peu de chance.
Il faut avoir une équipe très motivée. Il faut surtout également avoir des coureurs qui ont une totale confiance dans leur leader, parce que quand vous vous mettez à la planche toute la journée, il faut vraiment, vraiment avoir confiance dans son leader. Et je crois qu'ils peuvent avoir confiance, même si s'il s'était raté depuis le départ de ce Tour de France, puisqu'il avait terminé 3 fois 2e, alors que l'an dernier, à la même époque, il avait déjà remporté 3 étapes sur le Tour de France, c'est-à-dire une étape sur 2 lorsqu'on est arrivé à la 6e. Et puis, c'est un parcours qui... C'est un parcours qui permettait ce genre de choses, avec un col pas très très difficile, mais quand même un col de deuxième catégorie. Il y avait le maillot vert qui était en jeu, la victoire d'étape. Il a fait rouler ses équipiers et tous les sprinters ont sauté. À partir du moment où tous les sprinters ont sauté, eh bien, il n'y avait plus qu'à assurer un tempo et surtout à faire en sorte que le groupe des sprinters, un groupe qui était quand même composé de 85 coureurs, c'est-à-dire qu'ils ont fait sauter presque la moitié du peloton. Alors bien sûr, pas les grimpeurs. Et ensuite, eh bien, ils les ont maintenus à 2 minutes derrière, n'ont jamais pu rentrer. Ils ne se mettaient pas à fond, mais derrière, ils ne pouvaient pas boucher le trou. Ils se sont relevés. Et puis, ils savaient que de toute façon, dans le final, en fonction des différentes attaques, eh bien, ils bénéficieraient du travail de l'équipe, de l'équipe du maillot jaune, de l'équipe Green Edge.
Très bien. Donc, victoire de Peter Sagan. Lucho, je voudrais avoir ton sentiment sur ce personnage. Car Peter Sagan, c'est un personnage. C'est pas seulement un bon coureur cycliste. C'est une véritable personnalité, une belle gueule, un garçon qui n'a pas la langue dans sa poche, qui fait des facéties de temps en temps. Bref, c'est le genre de coureur qu'on aime bien. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, dans le peloton des comme lui. Hein.
Non, mais c'est vrai que c'est un très très beau coureur. Et puis en plus, bon, il est jeune, il n'a que 23 ans. Et puis ce n'est pas qu'un coureur aussi de course à étapes où il remporte les étapes. C'est vrai que c'est sa quatrième étape sur le Tour de France. On l'a vu remporter aussi des étapes sur le Tour d'Espagne. Et il a quand même gagné Gent-Wevelgem aussi cette année. Ça veut dire que c'est un coureur de classique aussi et qu'il faudra compter sur lui.
Capable de tout. Hein. Il est capable de tout.
Et encore une fois, il n'a que 23 ans. Donc il a un très très grand avenir. Et c'est vrai qu'il a du charisme. C'est un beau gosse. Il ressemble un petit peu à Robin des Bois, quoi. Sherwood, la forêt. Celui qui veut.
Ouais, en plus, il a la tenue verte de Robin des Bois.
Oui, voilà, tout à fait. Non. Mais franchement, ça fait du bien au cyclisme, ouais. Hein, en règle générale, de voir un garçon comme lui arriver et puis donner une très très belle image de notre sport.
Exactement. Donc Peter Sagan, beau vainqueur aujourd'hui. Cyril, on a eu 4 sprinteurs vainqueurs depuis le début de ce tour. C'est vrai qu'habituellement, les années précédentes, il y en avait un qui se démarquait. Tu disais que l'année dernière, par exemple, Peter Sagan avait remporté 3 étapes sur 6, ou ensuite il y a eu Cavendish. Là, la hiérarchie est difficile à établir, hein, entre Cavendish, Greipel, Kittel, Sagan. C'est qui le plus fort des 4?
Logiquement, on va pas se dédire. C'est quand même Cavendish de par son palmarès aujourd'hui, surtout dans certains types d'arrivées. Mais il a aussi de temps en temps, eh bien, des adversaires qui peuvent le titiller, voire le battre. Je pense que sur la régularité, sur tout type de parcours, Peter Sagan est beaucoup plus complet. Kittel, lui, est dans le même registre que Cavendish, mais il faut que ce soit vraiment plat ou avec son poids et sa puissance de démarrage, eh bien, il arrive à faire des différences. Et puis il y a le gorille de Rostov,
de Roscoff. Ah,
c'est pas en Bretagne.
Hein,
Roscoff, qui lui aussi est un petit peu Roscoff. Dans le même registre, mais bon. Cavendish, c'est le numéro 1. Le plus complet, c'est Peter Sagan.
Mais bon, il est porteur du maillot vert, Thierry. Quand on est maillot vert, c'est qu'on est le meilleur sprinter, non?
Oui, disons que on se place à chaque fois. Et sur ce début de tour, il s'est toujours placé. Il va gagner encore quelques étapes, je pense. Et il va rarement se tromper. Il préfère les étapes avec des faux plats montants quand il y a tous les sprinters avec lui. C'est là-dessus qu'il est impérial. Une étape de avec une arrivée grande ligne droite où les équipes emmènent bien leurs sprinteurs, il a un petit ton en dessous et c'est un peu dommage. Bon, mais il est très complet, comme disait Cyril. Il passe les bosses et il passe même très bien les bosses. On a vu aujourd'hui qu'il a fait rouler et c'est là qu'il a gagné, hein, déjà.
Ouais, ouais. Cyril, tu es d'accord avec ça? C'est le porteur du maillot vert, c'est le meilleur sprinteur du peloton ou c'est effectivement celui qui est le plus complet, qui sait aussi bien emporté dans des sprints un peu en montée, dans des sprints qui interviennent après des côtes, des sprints en descente, des sprints sur le côté, des sprints en diagonale. Bon, c'est tout faire, ce garçon, quand même. Hein.
Oui, puis il sait sauter les trottoirs aussi. Oui, non, mais le maillot vert, c'est la régularité. On n'est pas obligatoirement en vitesse pure le plus rapide, puisque plus rapide, on l'a déjà dit, c'est Cavendish. Mais seulement si une étape est dure, avec, sans parler même de col, avec un certain nombre de côtes qui se succèdent les unes aux autres, Peter Sagan arrivera plus frais. Et non seulement il arrivera plus frais, mais il arrivera à faire également la différence. Donc c'est quand même à la fin du compte le meilleur sprinter qui remporte le maillot vert, mais pas le plus rapide. Mais le meilleur sprinter sur l'ensemble du Tour de France.
C'est pas forcément le plus rapide, mais c'est forcément le plus complet.
Le classement de la montagne.
C'est pareil, ouais.
Le classement de la montagne est pratiquement toujours gagné par un coureur qui n'est pas le meilleur grimpeur. Parce que pour gagner le classement de la montagne, il faut partir dans des échappées, un petit peu à la Virenc. Virenc n'était pas le meilleur grimpeur. D'ailleurs, il a gagné peu d'étapes, hein, où le peloton était groupé au pied d'une ascension finale. Il était toujours dominé. Mais sur des successions de cols, eh bien, il arrivait, en partant de loin, parce qu'il n'avançait pas contre la montre, à aller chercher des victoires d'étape. Mais le meilleur grimpeur, pour moi, dans le tour, c'est quand même celui qui gagne le Tour.
Ben oui, c'est vrai, forcément. Oui. Même si de temps en temps, il y a des années où les contre-la-montre
ont fait.
Les contre-la-montre, de temps en temps, Thierry, ont pris le pas sur les arrivées en altitude. Il y a des années où, quand on avait des contre-la-montre de 60 km, où il y avait des écarts énormes, ça pouvait être aussi un rouleur.
Oui, ben, si on prend les années Anquetil, c'est vrai qu'il s'est retrouvé avec des Charlie Gaulle, avec des Bahamontes qui étaient des purs grimpeurs.
Seulement. Des meilleurs grimpeurs que lui, en plus.
Sauf qu'ils étaient incapables de faire une descente et qu'ils étaient souvent là une étape sur deux, parce que pour gagner le Tour de France faut être là dans toutes les étapes de montagne. Donc il y a certaines étapes où vous êtes obligé aussi de laisser du lest et puis de laisser et souvent d'ailleurs de laisser le maillot de la montagne à un adversaire ou un semi-adversaire qui ensuite va être dans l'obligation de collaborer avec vous dans certaines circonstances. Le vélo c'est aussi de la stratégie
et c'est surtout de la stratégie.
En fait les maillots de Tour c'est vraiment ça récompense la régularité de tout ça. La régularité sur l'ensemble, c'est le jaune. La régularité sur le grimpeur, bon, là, c'est entre parenthèses, on va dire, parce que il peut arriver la stratégie de partir de très loin sur deux grosses étapes de montagne et marquer plus de points que les autres. Mais autrement, le sprint, c'est ce qu'on vient de dire.
Les sprinteurs les plus complets, pas obligatoirement les plus rapides. Tiens, Nicolas, nous appelle au 32-16, il nous appelle d'Ille-et-Vilaine, évidemment, région de cyclisme s'il en est. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir à toute l'équipe. Salut Lucho, salut Cyril, salut.
Salut Nicolas. Alors, tu as été impressionné par cette étape et par le travail réalisé par la formation Cannondale, cette belle stratégie aujourd'hui.
Oui, parce que tu sais, nous les organisateurs, Christophe, on est souvent, on voit plus souvent des courses avec des coureurs qui prennent des initiatives. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié, c'est de voir une équipe avec ses coureurs prendre donc des initiatives. Ils ont osé, ils ont été récompensés. Moi, c'est ce que je voudrais bien voir en montagne dans quelques jours, une équipe comme ça qui prend un peu de risque, comme Cyril le faisait avec ses équipes à l'époque.
Mais oui, ça serait bien. C'est vrai, l'initiative est récompensée là ce soir, Cyril.
Oui, l'initiative est récompensée, mais on ne prend pas des initiatives pour prendre des initiatives. Les initiatives doivent être bien calculées. Comme je dis toujours, l'improvisation, c'est ce qui est quand même le plus, c'est ce qu'on prépare le mieux. Et c'est vrai que lorsque vous arrivez à bien analyser le parcours, les conditions de course, terre climatique comme aujourd'hui, l'état de fraîcheur des adversaires, à partir de ce moment-là, vous pouvez mettre en place une stratégie et passer à l'offensive. C'est vrai que je l'ai souvent fait et lorsqu'on le fait, il faut pas se rater. Et aujourd'hui, l'équipe Cannondale c'est pas raté. Je me souviens une année, on a gagné le Tour d'Italie sur 2 km 700 où on a monté un coup de bordure, mais ça faisait 3 jours qu'on le préparait.
Eh oui, c'est ça, ça se prépare. Ça se prépare tout ça, mon bon monsieur.
En tout cas, je voulais vous féliciter tous parce que vous faites vraiment du super travail et c'est vrai que c'est un plaisir pour nous auditeurs et on a hâte à vous rejoindre en Bretagne parce que dans quelques jours vous êtes chez nous j'ai hâte à vous rencontrer sur le Tour, j'y serai moi aussi à Saint-Malo et Mont-Saint-Michel et la Fougère.
Eh ben super Nicolas, on a hâte de te rencontrer également. Tu viendras nous faire un petit coucou au camion et intervenir dans nos débats. Bonsoir Nicolas. Allez, on va revenir dans quelques instants, toujours ici en direct d'Albi, au soir de la 7e étape du Tour de France et à la veille surtout de cette première grande étape de montagne. La stratégie justement, quelle sera la stratégie demain des différents leaders? Va-t-il y avoir de la bagarre? Va-t-il y avoir déjà des défaillances? Parce que c'est vrai que le peloton arrive un peu entamé après cette première semaine de Tour de France. On en parle dans un instant. La Dream Team reste avec moi, évidemment.
Christophe Cessieux.
Et nous sommes ce soir au pied de la montagne, au pied des Pyrénées, premier massif montagneux de ce Tour de France. Il y aura 2 étapes cette année, avant évidemment les Alpes. Ça sera la dernière semaine et le véritable plat de résistance de ce Tour de France. En attendant, il va se passer de belles choses, on l'espère en tous les cas, dans les Pyrénées. On va en parler toujours avec Cyril Lucho et Thierry. C'est vrai que, Cyril, on se faisait la réflexion tout à l'heure dans le direct. Le peloton arrive quand même un peu entamé au soir de cette 7e étape avant d'aborder les Pyrénées et on peut craindre, en plus il y a la chaleur qui vient se mêler à la fête, il fait très chaud et il fera très chaud dans les jours qui viennent. Est-ce qu'on peut craindre dans les 2 jours qui viennent déjà des défaillances de grands leaders? Est-ce que ça peut arriver ou est-ce que lorsqu'on aborde les premières étapes de montagne, on reste quand même assez frais et on peut s'attendre à ne pas voir beaucoup de défaillances? Qu'est-ce que tu en penses?
Ah,
Je pense qu'on risque de voir quand même un certain nombre de défaillances, plus ou moins spectaculaires. Mais ce Tour de France a été très exigeant depuis le départ. Jamais on a eu un parcours aussi difficile, même si on a retrouvé des sprinters qui l'emportaient. On n'a pas eu pratiquement, à part l'étape de Marseille et l'étape d'hier, mais l'étape d'hier arrivant à Montpellier avec un vent énorme qui a énormément sollicité les coureurs. On a des coureurs qui vont attaquer donc ces deux grandes étapes pyrénéennes en étant quand même pas mal entamés. Ouais. Allez, aujourd'hui, 85 coureurs ont été éjectés et finissent à un quart d'heure. C'est-à-dire presque la moitié du peloton et nous ne sommes que le septième jour dans une étape où il y avait un petit col oignon là de qui montait qu'à 6% et pas très longtemps, et bien presque la moitié du peloton a explosé là-dessus. Mmh. Ce qui veut dire que beaucoup de coureurs commencent déjà à donner des signes de fatigue, des signes de faiblesse, et si les petits coureurs, enfin ne parlons pas des sprinters qui eux se font sortir normalement, si au niveau des moins forts on a pu voir ce qu'on a vu aujourd'hui, ça veut dire aussi qu'au niveau des leaders, il y a un peu de misère dans les cuisses.
Alors je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'ils sont fatigués et on comprend avec ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. D'un autre côté,
la Corse n'a pas été simple.
D'un autre côté, il y a aucun des grands leaders qui n'arrive touché dans sa chair, mis à part Rodriguez qui a chuté à deux reprises, mais c'est vrai
Quintana
aussi, mais bon c'est juste un peu de vernis. C'est quand même très important d'être au top de sa condition physique, de ne pas avoir de douleur, de ne pas être malade, parce qu'il a fait plutôt beau depuis le début de ce tour. Et ça, l'autre chose, c'est important, hein, avant d'attaquer la montagne, même si on est un peu fatigué, de savoir qu'on a quand même la condition, c'est le plus important, non?
Non, mais oui, mais de toute façon, la fatigue, elle est pour tout le monde. De toute façon, les leaders qui veulent gagner le tour aujourd'hui, la première semaine, ils l'ont fait ensemble, donc c'est sur la récupération que ça va jouer maintenant au fil des jours. Donc la première étape de montagne, c'est vrai que on l'appréhende toujours. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un développement d'un grand plateau 53 à 11 à pratiquement 39, 21, 23. Donc il va y avoir un changement de braquet, il va y avoir un changement de rythme, et ça, il va falloir que les coureurs puissent l'assimiler d'entrée. Parce que quand on regarde l'étape de demain, les 120 premiers kilomètres, c'est légèrement vallonné, mais ça sera grand plateau, 53. Et d'un seul coup, ils prennent le col de Payère, et ouais, c'est 15 kilomètres à plus de 8%. Donc là, il va y avoir un changement de développement et un changement de rythme. Il va falloir s'y tenir, que ce soit surtout pour les leaders, puisque c'est les leaders que ça concerne demain. Donc, il va falloir se méfier. Et c'est à celui qui saura le mieux assimiler ce changement de rythme et ce changement de braquet qui pourra peut-être éventuellement faire la différence sur l'arrivée demain à Axe 3 Domaine.
Alors, tout à l'heure, Cyril nous parlait de fracture de la face. Hein. C'était évidemment une image, Thierry. Mais quand on arrive comme ça à lancer et qu'on se prend le port de Payère en pleine figure, ça dure que 15 kilomètres, mais ces 15 kilomètres vont être longs pour certains.
Hein. Avec 15 kilomètres à 8% de moyenne, avec des passages à 10, ça risque de faire très très mal. Et comme on dit dans le jargon de cycliste, on va se le prendre en pleine poire. Ça risque d'être une belle étape si je l'espère, les ténors se mettent une petite danse et que quelques leaders prennent l'initiative de tacler un peu leur concurrent dans ce premier col, parce que après on redescend de suite avec une descente assez rapide sur le pied à Axe les Thermes, et puis Axe les Trois Domaines, ouais, on la connaît, ouais. 7 km même, non, oui, 8 km pratiquement, 8 km avec des passages aussi à 10 km, ouais, à 10%, ça va être vraiment un final très 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 sympa. Ouais.
Très bien. Alors, on va écouter justement quelles sont les stratégies et ce qu'on peut attendre de cette étape de demain. On va tout d'abord écouter Dave Braceford, qui est le manager de la formation Sky, qui avait remporté le tour l'an dernier avec Bradley Wiggins, qui compte bien faire la même chose avec Chris Froome cette année. L'année dernière, c'est vrai que la Sky avait cadenassé la course. Impossible de s'échapper du peloton. Vont-ils adopter la même formule et la même tactique à partir de demain? La réponse du patron de Sky.
On a beaucoup contrôlé l'an passé, mais cette année, je pense qu'il y aura eux qui tentent leur chance beaucoup plus tôt. Alors, on va voir comment on va gérer ça, mais je pense que ce qu'on a fait l'année passée, peut-être, c'est pas la bonne tactique pour cette année. Je pense que pour ceux qui savent qu'ils sont pas si forts que Christ en contre le monde, c'est logique qu'il n'y a pas énormément d'opportunités. Alors, il faut prendre l'opportunité quand on l'a. C'est la première opportunité, alors c'est normal que tout le monde va essayer de faire quelque chose quand même.
Alors, tout le monde va essayer de faire quelque chose, mais a priori, quand même, la Sky va quand même essayer de contrôler, Cyril. Hein, ça avait bien marché l'année dernière. Brice nous dit que ça va être plus difficile, mais a priori, ils ont quand même les forces. En tous les cas, au départ du tour, ils avaient les forces pour le faire. Vont-ils avoir véritablement les forces? Parce que tu nous le disais là aussi tout à l'heure, ils sont un peu entamés. Peut-être pas Chris Froome, mais les autres. Hein.
Oui, mais lorsqu'on écoute le discours de Dave, on se rend bien compte, parce qu'il n'est pas idiot non plus. Il n'est pas spécialement langue de bois, d'ailleurs, je crois qu'il faut le souligner. Il a une analyse qui est relativement juste, et quelque part il fait passer un message aussi, hein, en disant bah écoutez, ne comptez pas sur nous pour faire comme l'an dernier avec des coureurs qui prennent le pied d'école et qui vont jusqu'au sommet à vitesse grand V avec derrière Froome et Wiggins. Ça c'était l'an dernier, et Richie Porte également. Mais leur équipe aujourd'hui est quand même très diminuée. Ils ont trois coureurs qui finissent aujourd'hui à plus de 15 minutes. Stannard est quand même tapé, est quand même à chuter. Geraint Thomas également. Kiryanka, qui devait faire partie des coureurs qui assument les montées de col, a fini très loin aujourd'hui. Il a fini.
Est-ce que c'était pas pour se préserver,
oui,
pour demain?
C'est ce que j'allais dire.
Ça peut être une tactique.
On ne prend pas ce risque-là, parce que si un coureur comme Kiryanka, quand il marche, c'est pas le train des rouleurs sprinters, on va dire, de Cannondal qui vont le faire sauter. Il est quand même relativement suffisamment économique pour ne pas se faire mal aux jambes dans ce genre d'ascension.
Oui, mais Cyril, est-ce qu'il s'est pas fait piéger en traînant derrière, et puis après, il s'est dit bon bah. Ouais.
Non, mais ils ont déjà trois coureurs dans la première chute au bout de 11 km. Hein.
Oui, quand on tombe, on dit toujours qu'on est c'est aussi parce qu'on est un peu dans la caillasse qu'on est au mauvais endroit. Et c'est vrai que quand on est prêt à gagner un tour, on l'a vu l'année dernière, toute l'équipe était devant. Et devant, ça chute beaucoup moins.
Ouais, donc Byford, il est conscient que son équipe n'est pas celle de l'an dernier, qu'il va falloir jouer sur un autre registre, et que il va falloir tout simplement, et c'est le message, je crois, qu'il fait passer. Bon, écoutez, si vous voulez gagner le tour, faudra me lâcher.
Allez-y, messieurs, tirez les premiers.
Voilà, les premiers, on va se retrouver à la guerre de 100 ans.
Eh ben, tant mieux.
C'est rare que les Anglais nous disent de tirer les premiers. D'habitude, c'est eux qui le font. Enfin,
ouais, attention, c'est peut-être du bluff. Hein.
Ouais, Lucho, c'est du bluff. Qu'est-ce que tu en dis? La Sky, tu la sens aussi forte que l'an dernier?
De toute façon, pour gagner le tour, certes, il faut avoir les équipiers. Mais dans le dernier col, dans les dernières ascensions, il n'y aura pas besoin d'équipiers parce que les leaders de chaque formation seront ensemble.
Tu penses que Froome va attaquer demain, par exemple?
Mais de toute façon, pour gagner le tour, il faut attaquer. Donc, Froome, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, il doit le faire. Il doit le faire. Il doit le faire parce que demain, bon, même si c'est un petit peu tôt, ok, d'accord, il va être attaqué. Eh bien, la meilleure façon de répondre, c'est de contre-attaquer. S'il en a les moyens, il en aura les moyens. Et de pouvoir même, à la limite, gagner l'étape et dire, oh les gars, voilà, vous avez du
mal.
Moi, je pense une chose. Hein. C'est que, comme ils n'ont pas l'équipe, ils n'ont pas intérêt à prendre le maillot demain.
Bien
parce
sûr.
Parce que sur les 5 cols de l'étape qui arrivent à
toute
dernière, avec déjà, vous avez le porté d'aspect et derrière, vous avez le manté. Je suis désolé, si tu te retrouves tout nu en haut du monde, t'es mal.
J'ai pas dit qu'il allait prendre le maillot demain, mais à la limite.
Mais s'il gagne l'étape, il prend le maillot.
Oui, même s'il ne gagne pas l'étape.
Non, même s'il ne gagne pas l'étape, qui est-ce qui va rester devant lui? Alors, on a Simon Guérant, Impe, Albazini, Kiatowski, Chavanel, Boisselagel.
Il est 8e au général.
C'est lui qui est le mieux placé de tous les
favoris
de ce tour. Contador est à 6 secondes.
Moi, je pense plutôt
qu'il faut qu'il laisse Contador prendre le maillot.
Ouais, moi, je pense plutôt que Contador est plus armé pour mettre le bazar demain.
Ouais.
Donc je le vois bien visser un petit peu pour esseler les Sky et Froome. Et puis après, éventuellement finir dans la dernière montée.
Vite fait pour conclure, Thierry, moi je vais te dire, de toute façon, les leaders, ils seront ensemble demain, ils vont s'attaquer ensemble, mais c'est pas forcément eux qui vont gagner. Il y aura une échappée qui va partir
de
loin.
Non, mais là, on parle de
tactique.
Mais du général, mais pour te dire, pour en arriver au général, je te dis, Froome, que ce soit Froome, Contador ou les autres, ils ne prendront pas le maillot demain.
Tu penses qu'il y aura une échappée assez importante?
On va voir dans les paris tout à l'heure.
On verra. Je pense
qu'il y a des leaders qui peuvent prendre le maillot
jaune demain. Tu lâches le maillot jaune? Ben oui, mais alors lâcher le maillot jaune, ça veut dire que...
Je le lâche à Contador.
Tu le lâches à Contador?
Ah bah oui, comme ça.
Tu prends le risque de le lâcher à Contador?
Ah bah oui.
D'accord.
Mais j'ai aucun souci d'ailleurs là-dessus.
D'accord. Alberto Contador, je pense qu'il serait content si tu lui faisais ce cadeau. Alberto Contador.
Non, il a peut-être pas envie de ce cadeau-là. C'est peut-être là le piège.
Ah, ils vont pas freiner tous, hein. Ils vont
user les patins. La bagarre, s'il vous plaît, messieurs. Alberto Contador.
Je pense qu'il peut se passer énormément de choses. Il faudra vraiment voir comment évolue la course. C'est le moment où l'on va pouvoir découvrir véritablement l'état de forme de chacun. Si certains ne sont pas bien, alors on adaptera la tactique. On verra mes sensations, mais je peux vous assurer que je me sens très bien.
Muy bien.
Non, mais c'est ça, c'est qu'on va arriver dans le premier grand col du Tour. Donc là, il y a dans le premier grand col, le pied, je pense qu'il va avoir une certaine appréhension de chacun et un test de l'adversaire. Bon, et c'est pour ça que moi, je pense que Contador va tester dans ce premier col en faisant monter un peu vite, comme il a l'habitude de faire avec les équipiers qu'il a.
Très bien, on verra si c'est la Saxo, si c'est la Sky, ou pourquoi pas Radio Shack. Qu'est-ce que vous pensez d'Andy Schleck, par exemple?
Vous en oubliez
Andy Schleck,
hein.
Adele Evans, ils sont pas mal quand même.
Il nous a promis une surprise, mais alors, ça peut être dans un sens comme dans l'autre. Hein,
ouais. Avec alors, lui, Cyril, hein.
Les Pyrénées. S'il passe à peu près correctement les Pyrénées, parce que ça doit faire à peu près un an et demi qu'il n'a pas monté un col en compétition.
Donc, en Suisse, il s'est montré un tout petit peu. Mais bon,
on est dans le Tour là, on n'est pas au Tour de Suisse, c'est pas la même concurrence, c'est pas la même tension, puis on n'arrive pas avec la même fatigue dans les jambes, parce que là il y a quand même un petit peu de misère quand même dans les jambes.
Une semaine déjà.
Et si Andy doit faire des choses, s'il doit pouvoir passer à l'offensive, il a encore besoin d'une petite semaine d'entraînement.
Ok, donc pas tout de suite, peut-être dans les Alpes. Gadel Evans, il attaquera pas. Quintana peut mettre le feu.
Oui,
mais faut qu'il reste sur son vélo.
Oui, bon, en montée, il aura plus de facilité. Là, c'est vrai.
Il y a des descentes entre les deux cols.
Il descend très bien. C'est ça qui est gênant d'ailleurs, c'est qu'il tombe sur le plat et il descend bien, et il monte bien. Mais bon, c'est quelqu'un qui est rendu à sa troisième ou quatrième chute depuis le départ. J'ai une petite appréhension.
Moi, je le vois.
Et puis, il y a nos Français, évidemment. Ils sont là, en embuscade. 41e au général, Thibaut Pinot à 47 secondes. 49e au général, Pierre Roland à 1:18. Alors. Que faut-il attendre de nos Français? Tenez, on va écouter tout de suite Thibaut Pinot, leader de la FDJ.fr. Qu'est-ce qu'il attend de cette étape et de la montagne qui arrive?
Ouais, c'est sûr, c'est mieux. C'était une semaine qui était très longue pour moi, donc il fallait faire gaffe à éviter toutes les chutes, tous les pièges. Je commence à avoir le goût. Bon, après, on a vite une journée de repos lundi déjà. On a que deux étapes dans les Pyrénées. Vraiment, j'ai les possibilités d'attaquer. Si je suis bien, je vais pas hésiter, mais ça va bouger, c'est sûr. Ils vont pas attendre les Alpes. Hein. C'est trop long. Tout le monde est impatient d'être dans les Pyrénées. De toute façon, je suis grimpeur. Je vais me battre pour gagner, mais après, gagner, c'est encore autre chose. Hein. Je vais déjà voir où j'en suis par rapport aux autres et après on verra.
Ouais. Est-ce qu'on sait où on en est vraiment, Cyril, avant une étape des Pyrénées, après une semaine comme ça? Est-ce qu'on arrive à sentir son corps, sentir ce qui peut se passer dans une étape de montagne, sentir si on va pouvoir répondre? Est-ce qu'on sent le top de sa forme?
J'aime pas ce terme qui est un terme modèle. Je sens mon corps.
Je sens
mes jambes.
Non, mais est-ce qu'on arrive à avoir une idée de sa forme?
Où vous êtes guerrier au départ et vous allez au feu et vous ne pouvez pas à la question de savoir est-ce que je suis bien dans ma tête, bien dans mes jambes, bien dans... Bon, attends, personne ne sait où il va. Quand on attaque le premier col, c'est bon. Et il y a toujours d'ailleurs des grosses surprises quand on attaque le premier col, parce que justement, personne ne sait où il va. Donc, il va falloir attendre 4 ou 5 kilomètres pour savoir si tu sens que d'un seul coup, t'as de la compression.
Mais c'est ça que je voulais te demander. Est-ce qu'on peut le savoir avant?
Non.
On le découvre en fait dans le premier col.
Moi, je suis pas d'accord.
Lucho, explique-nous.
Non, je suis pas d'accord. Parce que je l'ai vécu. Donc je peux dire ce que j'ai vécu, mais je pense que ce que j'ai vécu moi, d'autres l'ont vécu aussi. C'est-à-dire que je me souviens l'étape d'Otakam, j'avais aucune sensation au départ, quoi. J'étais prêt à me faire larguer.
Et tu gagnes en haut d'Otakam, donc tu te sentais pas bien alors.
Oui, je me sentais pas bien. Attends Thierry, quand les premières bosses sont arrivées. Oh punaise, j'ai dit ça.
Tu confirmes ce que je viens de dire.
Oui, non, mais bon.
Tu peux pas savoir avant d'y être, en fait.
Non, c'est exactement ça. Tu peux pas savoir avant d'y être.
Mais si, je l'ai su. Non, oui, c'est... oui non, mais d'accord. Mais non,
quand t'as du stress, t'as peur.
Oui, mais je l'ai su de bonne heure dès la première bosse. Bah, là, oui, demain, il y aura peut-être des bosses un petit peu plus tôt. Dès la première bosse, tu sais comment tu seras dans le col. Tu sais comment tu seras dans le col.
Et malheureusement, le tcho, demain, il y a la grosse chaleur. On n'a pas eu de chaleur de toute l'année. Plus le premier grand col du Tour de France.
Ouais, mais heureusement qu'ils ont eu deux jours de chaleur quand même là.
Ouais, non, mais attends. On arrive dans les Pyrénées, tu sais bien que ouais, c'est bien sûr, la chaleur étouffante. Ouais. Et attention aux défaillances. Ouais. Parce que tu sais comme moi que c'est dans le col que tu t'aperçois que t'as une panne de moteur. Hein.
Très bien, on va voir ça. On va voir ça. On continue évidemment d'évoquer cette première étape des Pyrénées dans quelques instants. On va parier, on va faire le récap des paris du jour et puis évoquer cette étape de demain qui nous donne l'eau à la bouche. On en salive d'avance de voir ce premier col, de voir où en sont tous ces leaders et tous ces grands champions qui nous promettent le grand spectacle. 19h45, l'Intégral Sport revient dans une petite minute, toujours spécial Tour de France en direct d'Albi.
Christophe Sessieux.
Le Tour de France qui va prendre une image différente demain, un visage différent avec l'arrivée dans la montagne. C'est toujours un moment très important, cette première étape des Pyrénées. Demain donc entre Castres champion de France de rugby, on l'oublie pas, Ajax, trois domaines. On vivra évidemment cette étape demain, grosse journée de sport d'ailleurs sur RMC avec les essais du Grand Prix d'Allemagne, avec la finale de Marion Bartoli à Wimbledon et avec cette première étape des Pyrénées. Bref, soyez fidèles au rendez-vous demain à partir de 14h. En attendant, nous allons parier sur RMC et récapituler ce qui s'est passé aujourd'hui. On accueille Benji.
Les paris RMC. Tour de France.
Monsieur Benji, rebonjour.
Rebonjour, messieurs.
Salut, Benji.
Je sens que j'ai eu du nez, Benji, quand même, hein, de donner un deuxième pari en tout début de retransmission.
Non,
mais c'était pas à 5 km de l'arrivée, Thierry. C'était en début de retransmission pendant que tu faisais ta sieste. Moi, je travaillais déjà.
Oui, bien sûr.
Trop facile, Benji. Normalement, tu dois tenir le règlement comme il était fait au début.
Ça t'a pas gagné grand chose, hein, Christophe, puisque ça t'a fait en tout miser 20 euros et que la cote était à 2,60. Donc
j'ai gagné quoi ? 6 euros. Bah voilà, mais j'ai pas perdu.
Normalement, il devrait être dans le négatif. Je suis désolé.
6 euros en trichant.
Je suis fin stratège. Je fais comme faisait Luc Leblanc l'année dernière.
Mais moi, je fais comme l'Ocho l'année dernière aussi.
Ouais. D'ailleurs,
je suis à la nuit tous les jours.
Alors, si tu veux, Benji, qu'est-ce que tu en penses? Je sais que tu es le patron des paris, mais on peut donner un deuxième.
Non, on
un
peut pas si, parce que moi je suis pas présent.
Dis donc, c'est moi le chef ici.
T'as qu'à envoyer
un SMS.
Faillot. Non, mais c'est un argument recevable.
Ouais. Hein?
Lui, il ne peut pas changer parce qu'il n'est pas là.
Eh oui. Donc, ne change pas.
Donc, si lui ne peut pas, personne d'autre ne peut.
Bon, voilà. Et c'est Benji qui doit trancher.
Benjamin.
Non, mais moi, j'ai demandé son accord à Benjamin.
Ouais, mais bien sûr.
Benjamin.
Le classement, Benji. Attends, tu sais qu'il doit me subir toute l'année derrière Benji.
Ah, voilà. Et ça, c'est du racket.
Et dans l'intégral sport pendant toute l'année, si.
Allez, vas-y, dis qui est le vainqueur.
Alors, ceux qui avaient donné Peter Sagan. C'était Luc Leblanc, Cyril Guimard et donc Christophe. Mais ça compte pas pour le maillot vert, hein, Christophe. Ton pronom, c'est le premier qui est en compte. C'est Thomas Vauclair, évidemment. Ouais. Donc Lucho reste en tête du maillot jaune et reste en tête également du maillot vert. Mais attention, parce que Cyril est pas très loin, que ce soit pour le jaune ou pour le vert.
Cyril va le passer demain.
Ouais, mais enfin bon, j'ai de l'avance quand même.
Et demain, on prend en compte les paris pour le maillot à poids. Donc Bourgui et moi, on va jouer le maillot à poids parce qu'on est quand même à la rue pour les autres maillots.
Allez, rapidement maintenant les paris pour demain. Thierry, on va commencer par toi, tiens. Tu es la lanterne rouge.
pour ma... De toute façon, je suis habitué à me tromper cette année. Donc, Lucho m'a soufflé, Quintana.
D'accord, Quintana. Quintana, je voulais le mettre, mais tant pis, j'avais trouvé un autre. Mais t'es tellement chat noir en ce moment que je me demande.
Mais non, tu sais bien que sur le plat, j'ai du mal.
Oui, c'est vrai, quoi. Dès que la route s'élève, c'est plus le même Bourgui. Lucho.
Valverde.
Valverde.
Valverde. Ça va être un combat des chefs, là. Plutôt, ils vont se battre.
Ok, Valverde donc pour Lucho. Cyril.
Bah heureusement que vous me faites passer les derniers, parce que sinon vous prendriez toujours mes... T'as joué, toi?
Oui, j'ai joué Valverde.
Je vais jouer Contador.
Bah oui, mais bon.
Alberto Contador pour Cyril.
Donc, c'est-à-dire
alors, et moi je vais jouer Chris Froome.
Les cotes.
Les cotes.
Vas-y les cotes.
Je récapitule. Donc Lucho a joué Valverde cote de 10, Quintana pour Bourgui cote de 12, Contador pour Cyril cote de 8, Christophe Froome c'est le grand favori de cette épreuve. Il est à 3,80 et moi je vais faire comme Lucho et Cyril, je vais jouer espagnol, je vais jouer Mikel Nieves.
Attention,
personne n'a joué Roland.
Non.
Attention, il y a Virginie qui doit parler aussi. Hein,
mais Virginie va nous trouver un anglais grimpeur, je sais pas si elle a des masses, à part Chris Froome.
Il est kényan.
Arrêtez de dire qu'il est anglais.
Tu devrais jouer.
Il y a Daniel Martin aussi.
Jouer Boisselagen.
Elle ne joue que les Britanniques, Virginie.
C'est une tactique aussi. Donc Chris Froome,
comme moi, d'accord. Chris Froome.
Tu veux pas jouer.
Non. Elle veut pas
jouer Cavendish. Ne m'influencez pas. Ah, j'ai choisi Chris Froome.
Tu changeras pas toi non plus.
Ah non, mais moi je change pas, moi je ne triche pas. Non, moi je triche pas.
Ça suffit. Mais c'est de la triche.
Ça veut dire que nous on peut changer demain ou en début quoi.
Non, Christophe, simplement.
Mais j'ai pas changé, j'ai ajouté un deuxième pari. De miser mon propre argent,
puisque c'est Valverde qui va gagner demain.
D'accord, très bien.
Je le sens là.
On verra ça, très bien.
C'est comme quand tu te sens au début d'une étape.
Il va péter moteur.
Très bien, messieurs. On verra demain. En tous les cas, la grande bagarre est attendue, on l'espère évidemment, parce que ça va être un grand moment sur cette première étape des Pyrénées. On sera à l'antenne dès 14h pour vous faire vivre ce grand moment. Virginie, tu seras avec nous demain. Il y a une belle journée, une belle après-midi de sport demain.
Il y a non seulement la première étape de montagne du Tour de France, il y a aussi la finale dames de Wimbledon avec Marion Bartoli, puis les essais qualificatifs du Grand Prix d'Allemagne de Formule 1. Je garde Luc Leblanc et Thierry Bourguignon. Vous restez avec moi pour répondre à toutes les questions de nos éditeurs. Au 32-16.
Bon, moi je m'en vais alors.
Tu n'es plus le bienvenu.
Là, c'est jeune avec Virginie.
À 20h30, Mohamed Bouafsi nous rejoindra en studio pour nous raconter les coulisses du voyage d'affaires de Leonardo en Italie. Et puis Renaud Lavillenie et Christophe Lemaître nous donneront leurs impressions à 24h du meeting d'athlétisme à Révin au Stade de France. À tout de suite.
Et puis, comme tous les soirs, Virginie, je vous offre le livre Le Contour de Serge Lager et Claude Ménian, magnifique livre sur les Tours de France, les 100 Tours de France. Pour tenter de gagner votre livre, vous envoyez tout de suite le mot Tour par SMS au 7 32 16. Bonne chance et à demain.
Et à tout de suite pour ce qui nous concerne au 32 16.